Jules Verne, une ville flottante. Chapitre 19. En quittant le salon vivement éclairé, je remontai sur le pont avec le capitaine Corsican. La nuit était profonde, pas une constellation au firmament. Autour du navire, pas une ombre impénétrable. Les fenêtres des roufles brillaient comme des gueules de four. À peine voyait-on les hommes de quart qui arpentaient pesamment les dunettes. Mais on respirait le grand air. Et le capitaine humait ses fraîches molécules à plein poumon. « J'ai tout fait dans ce salon, me dit-il. Ici au moins je nage en pleine atmosphère. Voilà une absorption vivifiante. Il me faut mes 100 mètres cubes d'air par 24 heures où je suis à demi asphyxié. Respirez, capitaine, respirez à votre aise, lui répondis-je. Il y a de l'air ici pour tout le monde, et la brise ne vous chicane pas votre contingent. C'est une bonne chose que l'oxygène. Et il faut bien avouer que nos Parisiens ou nos Londoniens ne le connaissent que de réputation. Oui, répliqua le capitaine, ils lui préfèrent l'acide carbonique. Chacun son goût. Pour mon compte, je les déteste, même dans le vin de champagne. Tout en causant, nous longions le boulevard de Tribord, abrité du vent par la haute paroi des roufles. De longs tourbillons de fumée, constellés d'étincelles, s'échappaient des cheminées noires. Le ronflement des machines accompagnait le sifflement de la brise dans les haubans de fer qui résonnaient comme les cordes d'une harpe. À ce brouhaha se mêlait de quart d'heure en quart d'heure le cri des matelots de bordée. « All's well, all's well. Tout va bien, tout va bien. » En effet, aucune précaution n'avait été négligée pour assurer la sécurité du navire au milieu de ces parages fréquentés par les glaces. Le capitaine faisait puiser un seau d'eau, un demi chaque heure, afin d'en reconnaître la température, et si cette température fût tombée à 1 degré inférieur, il n'eût pas hésité à changer sa route. Il savait en effet que 15 jours avant, le Périr s'était vu bloqué par les icebergs sous cette latitude, danger qu'il fallait éviter. Du reste, son ordre de nuit prescrivit une surveillance rigoureuse. Lui-même ne se coucha pas. 2 officiers restèrent à ses côtés sur la passerelle, l'un aux signaux des roues, l'autre aux signaux des hélices. De plus, un lieutenant et 2 hommes firent le quart sur la dunette de l'avant, tandis qu'un quartier-maître et un matelot se tenaient à l'étrave du steamship. Les passagers pouvaient être tranquilles. Après avoir observé ces dispositions, le capitaine Corsican et moi nous revînmes vers l'arrière. L'idée nous prit de passer encore quelque temps sur le grand roufle avant de regagner nos cabines, comme feraient de paisibles citadins sur la grande place de leur ville. L'endroit nous parut désert. Bientôt cependant, nos yeux étant faits à cette obscurité, nous aperçûmes un homme accoudé sur le garde-fou, dans une complète immobilité. Corsican, après l'avoir regardé attentivement, me dit « C'est Fabian ». C'était Fabian, en effet. Nous le reconnûmes, mais perdu dans une muette contemplation, il ne nous vit pas. Ses regards semblaient fixés sur un angle du roufle, et je les voyais briller dans l'ombre. Que regardait-il ainsi? Comment pouvait-il percer dans cette obscurité profonde? Je pensais que mieux valait le laisser à ses réflexions. Mais le capitaine Corsican s'approchant. « Fabian ? » dit-il. Fabian ne répondit pas. Il ne l'avait pas entendu. Corsican l'appela de nouveau. Fabian tressaillit, tourna la tête un instant et prononça ce seul mot. « Chut !» Puis de la main, il désigna une ombre qui se mouvait lentement à l'extrémité du roufle. C'était une forme à peine visible que regardait Fabian. Puis, souriant tristement, « La dame noire » murmura-t-il. Un tressaillement m'agita. Le capitaine Corsican m'avait pris le bras et je sentis qu'il tressaillait aussi. La même pensée nous avait frappés tous deux. Cette ombre, c'était l'apparition annoncée par le docteur Pitferg. Fabian était retombé dans sa rêveuse contemplation. Moi, la poitrine oppressée, l'œil trouble, je regardais cette forme humaine, à peine estompée dans l'ombre, qui bientôt se profila plus nettement à nos regards. Elle s'avançait, hésitait, allait, s'arrêtait, reprenait sa marche, semblant plutôt glisser que marcher. Une âme errante. À 10 pas de nous, elle demeura immobile. Je pus distinguer alors la forme d'une femme élancée, drapé étroitement dans une sorte de burnouse brun, le visage couvert d'un voile épais. « une folle, n'est-ce pas ?» murmura Fabian. Et c'était une folle, en effet. Mais Fabian ne nous interrogeait pas, il se parlait à lui-même. Cependant, cette pauvre créature s'approcha plus près encore. Je crus voir ses yeux briller à travers son voile, quand ils se fixèrent sur Fabian. Elle vint jusqu'à lui. Fabian se redressa, électrisé. La femme voilée lui mit la main sur le cœur, comme pour en compter les battements. Puis, s'échappant, elle disparut par l'arrière du roufle. Fabian retomba, presque agenouillé, les mains tendues. « Elle !» murmura-t-il. Puis, secouant la tête. « Quelle hallucination !» ajouta-t-il. Le capitaine Corsican lui prit alors la main. « Viens, Fabian, viens !» dit-il, et il entraîna son malheureux ami.